Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue dans le nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité réalisé en collaboration avec plusieurs radios associatives de la région Occitanie. Au sommaire de cette semaine, une cellule d'écoute et d'accompagnement de lutte contre la pédophilie au diocèse de Mende en Lozère, le portrait d'un passionné des étoiles, fondateur de l'association Astrolab, c'est au Blémard en Lozère. La mairie de Lodève dans l'Hérault souhaite créer des micro-fleurissements dans les rues de la ville. Le directeur du cratère Seine nationale d'Alès s'exprime sur le mouvement de grogne de l'an dernier des acteurs culturels du Gard. Et pour terminer, en Ariège, à Montgaillard, le conseil régional va installer le Parlement de la montagne. C'est une première en France et peut-être même dans le monde. Les diocèses de Mende et Montpellier ont une cellule d'écoute et d'accompagnement commune de lutte contre la pédophilie. De nombreux diocèses ont déjà cette cellule effective, mais la cellule de Mende et Montpellier est la première à avoir signé un accord cadre avec le Centre hospitalier universitaire de Montpellier pour pouvoir recevoir les victimes et les auteurs. Pour contacter la cellule, un numéro unique est joignable 7 jours sur 7, avec au bout un psychologue ou un psychiatre. Des formations sont également organisées au sein des diocèses pour expliquer comment connaître et prévenir ce fléau. Alors que la pédophilie existe dans tous les secteurs de la société, l'Église, souvent montrée du doigt, met les moyens pour lutter contre et prévenir. Les membres de cette cellule étaient la semaine dernière en Lozère pour se faire connaître auprès des personnes gravitant autour de l'église, mais aussi de toute personne qui aurait besoin de leur aide. Wayne Botkin, doctorant en psychothérapie, référent de la cellule pédophilie pour les diocèses de Mende et Montpellier.
Quand quelqu'un appelle ce numéro de téléphone, nous avons toujours un psychologue ou un psychiatre qui va éventuellement répondre sur 48 heures. Et donc, on donne rendez-vous toujours à l'hôpital. Donc, ça, c'est la différence. Parce que nous, on a dit, c'est le lieu qui est comme un sanctuaire. Si quelqu'un était agressé, abusé dans un contexte de l'église, peut-être c'est difficile d'aller dans l'église ou à la maison de saint. Donc, nous, on a fait ce choix d'aller uniquement dans l'hôpital. Je crois qu'une chose fondamentale qu'on constate, c'est le silence. Et autour de la question de l'agression sexuelle, de la pédophilie, c'est quelque chose qui bloque les préventions. Et quand on parle, quand vous commencez à parler de ces sujets compliqués, difficiles, c'est l'intimité, la sexualité, mais c'est quelque chose qui va libérer la parole et aider les victimes et les auteurs de parler et de chercher les soins et pour moi d'avoir une société un petit peu mieux. Parlez avec nous, contactez-nous et aussi on vous donne l'information comment vous pouvez le faire ça. Parce que ce n'est pas évident. Et on n'est pas sûr, qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Le docteur Mathieu Lacambre, psychiatre, est responsable de cette cellule pour le CHU de Montpellier.
Le message principal, c'est qu'il s'agit de libérer une parole qui serait comme ça enfouie, contrainte dans une relation que nous qualifions d'emprise et qui va contraindre la victime, mais aussi l'auteur en partie, au silence. Donc la première idée, c'est de pouvoir libérer cette parole dans un espace sécurisé. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette cellule d'écoute des victimes, mais aussi des auteurs potentiels de violences sexuelles dans l'Église. En avril 2016, juste après la conférence des évêques de France qui évoquait la création de ces cellules, nous avions un partenariat historique avec le diocèse de Montpellier et de Mende. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons directement mobilisé des ressources pour pouvoir accueillir toute personne via cette cellule qui avait été, encore une fois, victime ou en difficulté avec sa sexualité au sein de l'Église. Alors, au sein de l'hôpital, il y a un premier temps d'évaluation qui est proposé, toujours en binôme, homme-femme, psychologue-psychiatre, pour pouvoir faire le point et ensuite orienter soit vers un conseil juridique, soit vers des soins, soit vers l'évêque. C'est toujours une proposition de pouvoir se référer à l'autorité religieuse en partenariat, mais toujours dans un espace sécurisé. Et notre ambition, c'était aussi de proposer un espace pour des personnes en difficulté avec leur propre sexualité. Nous avons l'ambition d'envisager une prévention primaire, c'est-à-dire avant le passage à l'acte.
La cellule bénéficie aussi de la présence de maître Iris Christol, avocate du barreau de Montpellier. Le numéro de téléphone de cette cellule d'écoute est le 07 68 55 00 43. C'était un sujet de Ludovic Théol de 48 FM.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Guy Herbreteau est le fondateur et président de l'association Astrolab, basée au Blémard, en Lozère, qui œuvre pour la diffusion du savoir astronomique pour le plus grand nombre. Petit portrait sous la neige d'un passionné des étoiles.
On s'est rendu compte en fait qu'au 19e siècle, on avait trouvé une centaine de météorites sur le siècle en France, et au 20e siècle, simplement une dizaine. Donc c'est pas qu'il y a moins de météorites, c'est simplement que on est beaucoup moins dehors. On a les lumières dans les villes qui nous empêchent quand même de les voir. Donc ils ont installé un réseau de caméras, ce qu'on appelle des caméras all sky, c'est-à-dire des caméras qui filment tout le ciel. Donc j'en ai une sur le toit de la maison là. Pour le moment, les caméras sont en place, il faut roder un peu le système, mais on espère pouvoir trouver des météorites dans les années qui viennent.
D'abord, vous allez croiser le chemin du Bonne Teste, donc ça, il faut passer plus loin encore.
Ouais.
On est vers le Bénard. Vous prenez cette petite route, là, long de la barrière en bois, et vous descendez jusqu'à ce que vous voyez une pancarte, route non déneigée. Et c'est là, c'est la maison qui est à gauche, là.
Moi, je suis venu en Lozère à 27 ans. Pour travailler, parce que j'avais trouvé du travail en Lozère, et puis le hasard a fait qu'à un moment je me suis trouvé sans travail et je me suis dit bon, j'aime bien l'astronomie, il n'y a rien qui se fait dans ce sens-là en Lozère, les écoles qui veulent aller au planétarium, il faut aller à Montpellier, à Nîmes, donc c'est tout de suite un quart, une journée de déplacement et... Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de faire quelque chose autour de l'astronomie. Donc j'en ai fait mon travail pendant une dizaine d'années. Et actuellement, je suis retraité, mais comme il n'y a personne pour prendre le relais pour le moment, je continue bénévolement pour l'association. Il y a essentiellement deux types d'activités. Une activité au niveau des établissements scolaires. Puis alors, un deuxième type d'activité qui est plutôt tout public, qui se déroule, plutôt le soir, avec observation du ciel direct, quand le temps le permet. Quoi. Je suis de la génération Spoutnik, c'est quelque chose qui a marqué, la conquête de la Lune. Les Américains s'étaient fait griller par les Russes, en envoyant les Russes qui envoyaient le premier engin dans l'espace.
Et brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire.
Le premier homme dans l'espace avec Yuri Gagarin
pour lancer à la Terre les premiers messages de l'espace.
Oui, attends, je vais chercher mes lunettes. Bon, les zones que je préfère sont évidemment les zones qui sont plus isolées au niveau lumière, où on n'a pas de lumière. Alors c'est un combat aussi qui est mené par les astronomes amateurs, mais aussi par beaucoup de gens qui s'intéressent à la nature. Hein, c'est de réduire les impacts de la pollution lumineuse de nos villes et villages. Voilà, donc en fait, le toit coulisse.
Vous avez construit ça vous-même ?
Oui. Quand on a vu des images sur Internet ou dans les livres, des images de Hubble ou n'importe, évidemment, on fait pas le poids. Hein. Mais c'est pas la même émotion quand même de regarder sur un écran que de mettre l'œil derrière l'oculaire et puis de voir Saturne par exemple ou les cratères lunaires. Essayer de faire comprendre aux gens aussi ce qu'est une éclipse par exemple. On sait maintenant à l'expliquer. Autrefois les gens c'était quelque chose qui les affolait parce que ils connaissaient pas l'explication. Tout d'un coup le soleil s'éteignait entre guillemets en milieu de journée et est-ce qu'il allait réapparaître, etc. Maintenant on sait que on peut l'expliquer, mais il faut l'expliquer. L'hiver, quand il fait vraiment froid, pas trop, mais l'été, oui, pas mal, oui, ça m'arrive même de dormir à côté. Parce qu'en fait, une fois qu'on est un peu dans le bain là, on a du mal à s'arrêter, et puis d'un coup on se dit, tiens, mais peut-être quand même aller se coucher, là, je ferme le toit et puis je vais me coucher.
Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
C'était un reportage réalisé par Radio Bartas à Florac, en Lozère. La mairie de Lodève, dans l'Hérault, souhaite créer des micro-fleurissements en partenariat avec les habitants, les services techniques de la ville et l'association Terre en Partage. Les détails avec Marie Thoman de l'association Terre en Partage.
Il s'agit de proposer aux habitants volontaires, donc qui le souhaitent, de planter un végétal au bas de leur porte qui va grimper, donc une plante grimpante qui va grimper sur la façade par exemple, ou plutôt une plante de type buisson qui va être là pour amener des fleurs ou des odeurs. Voilà. Donc l'idée est d'embellir la rue, de se faire plaisir en ayant un peu plus de végétal autour de nous. Et l'idée aussi est que ça se fasse en collaboration entre les habitants et les services techniques de la ville. Et dans leur programme, ils ont prévu de prendre en charge financièrement l'achat des plantes, en se fournissant en plus auprès de producteurs, de pépiniéristes locaux sur un catalogue de plantes méditerranéennes adaptées à nos climats pour assurer une meilleure pérennité et une intégration écologique de l'histoire.
Quel va être le rôle de Terre en Partage ?
Et on a accepté d'être partenaire puisque c'est la ville qui nous a sollicité sur cette opération. D'une part pour les valeurs qu'elle porte puisque c'est des valeurs qui nous intéressent fortement, donc le fait de faire plus de place à la nature dans la ville. L'autre aspect qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est ce côté, on s'approprie, on travaille ensemble sur l'espace public. Cet espace, si on dit qu'on travaille ensemble dessus, chacun amène quelque chose et on a tous besoin de l'autre. C'est ça qu'on trouve intéressant dans la démarche.
Concrètement, vous viendrez en aide aux habitants qui auront besoin de conseils ou pour faire pousser leurs plantes ?
Alors, on ne veut pas se substituer aux équipes techniques de la ville. C'est plutôt eux qui sont positionnés là-dessus, c'est-à-dire qu'ils offrent ce service de conseiller les gens sur qu'est-ce qu'ils vont choisir comme plante. C'est-à-dire que concrètement, ils mettent à disposition des gens une liste d'une trentaine d'espèces. Et puis ensuite, ils vont engager un dialogue avec eux selon l'emplacement qui est choisi. Donc ça, c'est leur partie. On va leur laisser parce que voilà, c'est comme ça que c'est prévu et c'est eux qui ont commencé à travailler sur cette liste et c'est très bien comme ça. Nous, on va être plutôt voilà sur la mise en lien, la promotion de l'opération et la synergie qu'on peut mettre en place par rapport à la production de compost dans les quartiers.
C'était un entretien réalisé par François Charbonnel de RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région, l'actualité en langue de Roussillon.
Chaque mois de janvier est l'occasion de présenter ses vœux. Autorités politiques et culturelles n'échappent pas à cette tradition bien établie. C'était le cas la semaine dernière au Cratère où Denis Laforie, le directeur de la scène nationale d'Alès, a présenté à cette occasion les grandes lignes de son contrat d'objectifs et de moyens pour les 3 ans à venir. Contrat qu'il présentera cette année aux tutelles de la scène nationale, c'est-à-dire les collectivités qui financent le Cratère, l'État, la région, la ville et le conseil départemental. L'occasion de lui demander où en est le mouvement de grogne de l'an dernier des acteurs culturels du Gard. Rassemblés en un collectif de plus de 90 structures culturelles, celles-ci exprimaient leurs inquiétudes sur la diminution du budget culture du département du Gard, qui, en 2 ans, a baissé de 23%. La réponse mesurée de Denis Laforie.
En n'y prenant pas garde, le milieu culturel a laissé filer un peu son budget culturel et le département, dont le budget est très contraint, on le sait qu'il est facile d'expliquer, s'est trouvé effectivement dans l'obligation de prendre un peu là où il pouvait. Et sans réaction de notre part, je crois qu'il y a été un peu fort sur la culture. Donc on s'est un petit peu groupé avec tous les acteurs culturels de ce département, en collectif, qui a été posé la question aux élus en disant « Maintenant, je crois qu'il est temps de reprendre la main et de faire en sorte qu'à un moment, tout ce qui a été construit ces dernières années ne parte pas à l'eau. » Donc je crois qu'ils l'ont compris et je crois qu'en 2018, en tous les cas, l'augure est d'arrêter l'hémorragie et même de reprendre peut-être un petit peu la main. Alors, on ne sait pas de quoi il va être fait, le budget n'est pas totalement réparti. Ce qu'on espère, c'est qu'à un moment, on va pouvoir retrouver avec tout des forces et que tout ça ne soit pas, simplement une manière de repositionner un problème ailleurs. Voilà, il faut vraiment qu'à un moment, tous ceux qui sont élevés et qui ont pâti un petit peu de ces restrictions budgétaires importantes puissent retrouver un peu de force.
Suite à cette présentation de vœux au cratère, le conseil départemental du Gard a annoncé une rallonge de 200 000 euros à son budget culture. Rallonge affectée à des appels à projets qui pourraient également profiter à des structures hors territoire pour peu qu'elles proposent une manifestation culturelle sur le département du Gard. Une idée qui ne provoque guère d'enthousiasme chez les membres du collectif et c'est un euphémisme. C'était un reportage réalisé par Yves Defago pour Radio Grille Ouverte. C'est ce vendredi 19 janvier que le Conseil régional va installer le département de la Montagne à Montgaillard en Ariège. Le Parlement de la Montagne est une instance de concertation dédiée aux acteurs et forces vives des territoires de massifs. Après un an de préparation, ce Parlement va donc être installé par Carole Delga, présidente de la région Occitanie, aux côtés notamment d'Aurélie Mayol, vice-présidente en charge de la Montagne et de la ruralité. Ce sont 600 parlementaires venus de tous bords de la société qui vont être installés. Mais concrètement, à quoi va servir ce Parlement? C'est la question que Ludovic Terrol de 48 FM a posée à Aurélie Mayol.
Le Parlement de la Montagne, en fait, il a plusieurs missions. La première de ces missions, c'est d'abord d'être une instance de dialogue en fait, avec la région, pour aboutir à la fin de l'année 2018-2019 à l'élaboration d'un plan montagne. Le plan montagne, ce sera des investissements d'avenir pour les massifs, donc massif central qui nous concerne en premier lieu et les Pyrénées, mais aussi des expérimentations sur ces territoires et l'adaptation des politiques qu'on dit sectorielles, c'est-à-dire par thématique de la région que vous connaissez habituellement, sport, tourisme, développement éco. Là, l'idée, c'est de les adapter aux besoins des territoires de montagne. Donc le Parlement de la Montagne, la première de ses missions, c'est de co-construire avec nous le plan montagne. Sa deuxième mission, c'est quelque part d'être une caisse de résonance et donc de pouvoir défendre la montagne au sein de la région, mieux faire connaître les massifs par exemple aux habitants des zones métropolitaines puisqu'on a deux grosses métropoles ou littorales, mais aussi aller défendre les massifs à Paris et demain, parce que ça sera très très vite d'actualité au niveau de la Commission européenne, puisque vous savez qu'il y a des financements européens dédiés à la montagne. Et tout l'enjeu des négociations, des futures négociations avec l'Europe, ben ça va être de les maintenir, ces fonds spéciaux, puisque toute la politique européenne d'aide au territoire va être revue d'ici 2020.
Les parlementaires sont issus des 12 départements des massifs de montagne. Il s'agit de personnes provenant d'associations, de chefs d'entreprise, de simples habitants des communes de montagne, d'élus, maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux et enfin d'experts universitaires, chercheurs et professionnels du tourisme. C'était un sujet réalisé par Ludovic Terrol de 48 FM Amende. Et c'est ainsi que le carnet de région de cette semaine s'achève, réalisé par Radio Grille Ouverte. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.